Samedi Sabatier sur MFM Radio avec Kev Adams et Serge Azanavicius pour le film Tout là-haut, actuellement au cinéma.
Bon, vous connaissez le principe, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. De samedi, on se rencontre entre 12 et 13 heures avec théoriquement un invité, mais là on en a deux pour le prix d'un. Enfin, je sais pas, on n'a pas encore discuté du prix. Kev Adams et Serge Azanavicius, ça va bien ?
Très bien, merci.
Très heureux d'être là, Patrick. Merci beaucoup de nous recevoir.
Moi aussi, je suis très content.
En plus, sur MFM Radio.
J'ai eu la chance, parce qu'on est quand même privilégié dans ce métier, de voir ce que vous n'avez peut-être pas encore vu, quoique le film est sorti mercredi dernier, puisque nous sommes le samedi 23. J'ai eu la chance donc de voir le film et j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup de questions à vous poser, d'ailleurs, sur les conditions de faisabilité de ce film. Ça me paraît pas évident. Mais alors, il y a un principe, hein, c'est simple. Il y a une tablette devant vous. Vous allez pouvoir, de droite à gauche, comme ça, la faire défiler. Oui, on commence. Voilà. Serge. Et puis, il y a des mots. Et avec ces mots, moi, je découvre et je dois faire des phrases. Et surtout des questions. Alors, téléphone portable, c'est une question pour tous les deux. Je vais commencer par Kev. C'est quelque chose d'indispensable. C'est un appendice, maintenant, le téléphone.
Oui, je crois que on vit dans une génération où effectivement c'est devenu quelque chose d'indispensable, mais pas seulement d'ailleurs pour la jeunesse, je crois que c'est un peu pour tout le monde, quoi. C'est devenu une sorte d'assistant du quotidien, quoi.
Tout mais le tu monde, es du genre à le regarder toutes les 3 minutes ou...
Non, quand même pas. Je suis du genre à le regarder toutes les 5.
toutes les 5, mais pendant une heure, si vous voulez.
Et toi, Serge ?
Ça vient, on travaille avec. Hein. On est tout le temps joignable, on fait des mails, on regarde même des choses qu'on nous envoie. Après, j'essaye de ne pas être collé dessus. Je vois avec mes enfants, et même Kev, il y a une génération, ils sont vraiment collés au téléphone. Ouais, c'est un vrai appendice.
Moi, quand il y a des endroits où on n'a pas le téléphone portable, je parle par exemple aux montagnes, et qu'on ne peut plus communiquer. Vous vous sentez complètement isolé, vous vous sentez perdu?
Moi, j'ai un super forfait, donc ça captait même dans la montagne, donc ça c'est cool. Mais pour être très honnête, on ne se sent pas perdu. C'est, au contraire, parfois ça fait du bien de déconnecter. En tout cas pour moi, ça me fait du bien de déconnecter de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est devenu indispensable, comme l'a dit Serge, même pour le travail, pour se tenir informé de ce que moi j'ai mon emploi du temps sur mon téléphone. Si j'ai pas mon téléphone, je sais pas qu'est-ce que je dois faire dans la journée, quoi.
Un deuxième mot.
Et puis le téléphone, on s'en sert, c'est vrai, il a raison. C'est pas que pour être connecté. C'est aussi une mémoire, c'est aussi prendre des photos pour les ramener, etc. Et quand on était au nord de l'Inde, au Ladakh, on avait des gros problèmes de réseau, on se servait quand même des téléphones. Cela dit, une équipe sans téléphone, ça change un peu des moments dans les rapports humains. Ça, c'est vrai.
Deuxième mot. Qui peut dire, ça c'est pour Kev, qui peut dire qu'il me connaît vraiment?
Qui peut me dire qu'il me connaît?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te connaisse vraiment? Qui dit, Kev, voilà ce que c'est.
Oui, je pense qu'il y en a, il y a pas mal de gens qui me connaissent vraiment. Serge me connaît très bien.
Ouais.
Vraiment très bien.
Vous vous êtes vu la première fois, c'était quand?
Le lendemain de son bac.
Ah ouais, donc ça fait quand même...
C'est une longue histoire.
Moi, j'ai mis en scène ces deux spectacles, on se connaît. Je travaille avec Kev depuis qu'il a commencé, parce que je pense qu'il a déjà commencé, si je peux me permettre, dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'il bossait. Et quand il a commencé professionnellement, c'est-à-dire le lendemain de son bac, il a commencé professionnellement. On était tous les deux dans une salle de répétition. On a commencé
à travailler. Et Serge, tu as vu immédiatement, parce que moi, je me souviens de Kev. C'est un directeur des programmes de France 2 qui m'en avait parlé, qui s'appelle Monsieur Pernikoff, Nicolas Pernikoff, et qui me dit, on est en 2008, je ne me trompe pas.
2009, je pense.
2008-2009, il me dit... Regarde, ça va devenir une star. Et moi, j'ai regardé pour la première fois, c'était le sketch où tu baissais ton pantalon,
etc. Du pantalon, ouais.
J'ai fait, il a un culot ce gars, mais incroyable, mais je ne savais pas que ça allait aller à ce point.
Oui, oui. Quand on me voyait au début, on se disait ça, ça ne va pas aller à ce point.
C'est le premier long métrage de Serge.
Ouais.
Et voici
comme réalisateur, hein, parce que j'ai un peu triché, je connaissais un peu les plateaux, ouais.
Première réalisation, le film est sorti mercredi et ça donne ceci.
Action. Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook, The Number One. Et avec son Chamonix, c'est là où il y a les meilleurs.
Pas mauvais le petit avec le foulard là, tu connais? Non, pas envie.
Et moi je vous connais, j'ai vu tous vos films.
Qu'est-ce qu'il fout là la nuit?
On pourrait peut-être aller rider ensemble pour quelques images, non?
Tu veux devenir une star, gagner du fric? T'es animateur télé.
Tu me rappelles quelqu'un?
Je suis pas si con.
L'Everest, le couloir Hanbei, c'est le Graal.
Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non?
J'ai envie de descendre cette pente.
Ce qu'il y a avec lui, ça fera du bien.
C'est vrai que c'est beau. Je peux faire un selfie?
Tu m'emmerdes.
Citons Vincent Elbaz, évidemment. Et quand on fait glisser le mot, on a mon rêve à moi. C'est un rêve, ce film?
Oui, je crois. C'était un rêve éveillé, donc c'était un désir très 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 fort. Et je crois qu'un désir très 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 fort, c'est un rêve, et quand il se réalise...
Pourquoi cette histoire, d'où ça vient? Descendre, parce que jeune snowboarder extrêmement doué, qui a un rêve, qui est de descendre une face de l'Everest, comme on dit, là, tout droit. Quoi,
voilà, pratiquement, ouais, c'est donc, ce couloir, c'est...
Incroyable. Il faut dire également que ça n'est jamais arrivé. Hein.
Ça n'a jamais été fait, voilà. Ouais, ça n'a jamais été fait.
D'où vient l'histoire?
En fait, moi, le film se passe dans l'univers du freeride, c'est skieur de l'extrême, et moi, je pratique cette activité depuis que je gagne un peu ma vie, c'est-à-dire depuis que je tourne des films. Et c'est mon luxe à moi, c'est de partir skier à l'autre bout du monde avec ces gens-là. C'est des gens qui me fascinent. C'est un monde qui m'a fasciné, et j'ai senti qu'avec ce monde, on pouvait faire un film. Il y a des images, il y a un geste incroyable, il y a des personnages qui prennent des risques, qui fonctionnent comme des personnages de fiction, quoi. Ils prennent des risques, il y a de l'engagement et tout ça.
Stromae fait partie des choix musicaux de Kev dans cette émission, et on les retrouve tous les deux, Serge et Kev, juste après Stromae.
Midi 13h, Samedi Sabatier, l'interview sur MFM Radio.
Kev Adams et Serge Azanavicius sont avec nous. Un autre mot, Gad Elmaleh, ça c'est pour Kev. Ça représente quoi en deux mots, Gad?
Gad, c'est évidemment la personne qui m'a donné envie de faire ce métier quand j'étais petit. Bien sûr, oui. Quand j'étais petit, je regardais ces spectacles en boucle. Je m'en suis jamais caché. Au contraire, ça a même été une très grande fierté pour moi. Et je trouve que c'est un immense artiste, si ce n'est le plus grand artiste qu'on ait en one-man show, en humour sur scène en France. Et donc voilà, ça a été une grande inspiration pour moi. Ça a été quelqu'un qui m'a vraiment, vraiment... donner envie de passer le pas et de monter sur scène et d'y aller, quoi. Et donc, pour moi, ensuite, notre rencontre a été très forte. Et puis voilà, le fait de faire un spectacle ensemble a été un très bel aboutissement. C'est quasiment quelque chose dont j'aurais même pas pu rêver, quoi. C'était assez incroyable.
Un autre mot pour tous les deux. Racontez-moi une première fois, celle que vous voulez. Racontez-moi une première fois dans votre vie.
Moi, la première fois que j'ai fait du snowboard, tout simplement, c'était pour ce film. J'avais jamais fait de snowboard.
T'avais jamais fait de snowboard?
Jamais. J'en avais jamais fait de toute ma vie. J'avais fait un peu de ski. J'avais eu un diplôme en ski qui s'appelle le flocon.
Et après, c'est pas mal quand même.
Voilà.
C'est un bon grade.
C'est un bon début. Hein,
c'est un début.
Ouais.
Et puis après, il a fallu apprendre le snowboard. J'ai eu la chance d'être entouré par des gens incroyables. Jonathan Charlet, qui est également ma doublure dans le film et qui est double champion du monde. Et puis quelqu'un qui s'appelle Tony Roscoe, qui est un des meilleurs, je pense, profs de snowboard dans la vallée de Chamonix. Donc j'ai passé mes journées avec ces deux gars qui sont deux mecs incroyables, qui ont des histoires incroyables à raconter et qui ont, je pense, la bonne manière d'apprendre aux gens et surtout de donner envie d'en faire, parce que c'est pas le tout d'apprendre, mais ça n'a rien de scolaire que d'apprendre le snowboard. Ils ont cette manière de t'en parler qui fait que t'as envie d'apprendre, t'as envie d'y retourner le lendemain et t'as envie d'y arriver, quoi, et de faire du snowboard comme eux. Donc voilà, moi la première fois que j'ai vécu, c'était celle-là, début d'année dernière, de pouvoir faire du snowboard pour la première fois. C'était une très bonne sensation, très agréable. J'ai qu'une seule hâte, c'est de retourner sur un snowboard après la sortie du film.
Une première fois, Serge?
Je vais rester dans le temps, je vais vous raconter le premier jour de tournage, de ce gros tournage, février, mars, avril, mai, juin. On tourne sur un glacier à 3003 environ, on monte en benne par un téléphérique, et après il y a deux bennes pour nous monter, et après tout est fermé. Il n'y a aucune piste, il n'y a rien, c'est une tempête. Dans le film, tout est vrai, donc il nous fallait une tempête, on a attendu la tempête, c'est le premier jour de tournage. Et donc il faut glisser sur le glacier, passer au milieu des crevasses et aller sur le lieu de tournage qui est au milieu des crevasses. Et donc je pars devant, c'est une nage un peu croûtée, ça s'appelle, un peu difficile à tourner. Et donc j'arrive, je me gare, hop, je déchausse mes skis, je me retourne, et derrière l'équipe était censée me suivre, 20-25 gars avec les sacs à dos et les skis. Et là je me retourne, il y en a 20, ils sont tous par terre, il n'y en a pas un qui tourne, la neige est trop difficile et c'est la catastrophe. Tant bien que mal, les gars arrivent, on fait la journée. On redescend assez tôt quand même, 1h30 pour redescendre jusqu'en bas pour certains gars, parce que tout était fermé, enfin voilà, la tempête. J'arrive en bas, je réunis tout le monde et je dis aux gars, excusez-moi, on va trouver des solutions, c'est compliqué, je pensais pas que ce serait si dur, blablabla, blablabla. Et là, tout le monde me regarde et me dit, mais t'es malade, c'était super, on y retourne demain. Et tout ça. Il y avait ce truc de montagne qui s'est créé tout de suite entre tout le monde. Voilà, ma seule inquiétude, c'était que les acteurs se blessent, parce que là, mais on n'a pas eu de blessés, jamais.
Vous avez choisi de passer un disque de Johnny dans l'émission?
Oui, c'est moi, j'ai choisi.
Bon.
J'ai rien à en dire de plus que... Voilà.
Que de l'avoir choisi.
Voilà.
Samedi Sabatier sur MFM Radio, avec Kev Adams et Serge Azanavicius, pour le film Tout là-haut, actuellement au cinéma.
Voilà, après avoir écouté Que je t'aime de Johnny Hallyday, un autre mot pour l'un ou l'autre, c'est pour les deux.
C'est papa-maman, c'est deux mots, mais c'est des très beaux mots.
Qui veut là-dessus réagir?
Papa, maman, bah moi je suis très proche de ma famille depuis toujours, donc évidemment c'est des mots qui me touchent beaucoup, mais à part ça...
Est-ce que c'est pas l'essentiel?
Moi c'est sûr.
Papa, maman, bah, je famille, pense que c'est la famille plus généralement.
Mais c'est une question sérieuse, est-ce que tout compte fait, quoi qu'on fasse, on n'a pas envie d'avoir... Déjà, au fond de notre cœur, envie de leur faire plaisir, de se dire, tiens, regarde ce que j'ai fait de ma vie, non ?
Bien sûr, envie de leur faire plaisir, envie de les rendre fiers, c'est une évidence, mais moi, c'est surtout la famille, quoi. La famille, c'est très, très important, je trouve.
Ouais, d'abord, en plus, la différence de Kev, c'est que quand moi, je vois papa-maman, moi, je suis papa aussi. C'est-à-dire que c'est mon papa et moi, en tant que papa. C'est une des valeurs du film, c'est ce qui unit les gens. Voilà. Mmh. J'ai mon frère, j'ai ma sœur, on est extrêmement liés tous ensemble. Et mais il y a aussi les frères qu'on se choisit. Stéphane Dan, avec qui je fais de la montagne depuis 20 ans, qui a écrit le film avec moi, il m'a sauvé la vie dans des pentes. Il m'a emmené. C'est un frère, quoi. Mmh. C'est vraiment un frère.
On parlait tout à l'heure de qui vous connaît vraiment. Qu'est-ce que vous avez de vos parents, l'un et l'autre? Qu'est-ce que vos parents vous ont donné? Qu'est-ce que vous avez en vous qui fait que, de par vos origines, de par là d'où vous venez, vous êtes ce que vous êtes?
Écoutez, nous, on est tellement proches. Et puis, j'ai un frère qui est réalisateur et je suis là en tant
Michel
que réalisateur.
Michel Hazanavicius.
Oui, voilà. Et puis, c'est pas un petit réalisateur, pour le coup.
Il a fait quoi?
Film muet, nul.
Il fait des films, artistes. Il s'emmerde pas à écrire les dialogues. Voilà, tu sais. Et puis, entre autres. Mais donc, je peux pas faire comme s'il n'y avait pas de transmission chez nous. C'est d'ailleurs un des thèmes centraux du film. Et puis à chaque fois que j'ai fait quelque chose, bon, quand je suis acteur, je suis au service des gens, mais j'ai déjà, quand je fais des choses personnelles, souvent la transmission revient. Donc je crois que j'ai envie de dire nous, j'ai même pas envie de dire moi, mais nous, mon frère, ma sœur, on a énormément de choses de nos parents, dont l'amour du cinéma d'ailleurs.
Et Kev ?
Ouais, pareil, moi je pense que j'ai pris de mon père cet acharnement du travail, c'est un gros travailleur mon père, donc je pense que c'est de lui que j'ai pris ça, et j'ai pris de ma mère... Je pense tout ce qui est ambition, penser pour toujours penser aux autres, une sorte de... Ma mère a toujours été une chef de clan, quoi. Ça a toujours été la chef de la famille, donc je pense qu'elle m'a donné un peu ça.
Et même des grands-parents, en ce qui vous concerne?
Bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents du côté de mon père et ma grand-mère du côté de ma mère. Et c'est des gens avec qui j'adore échanger, qui ont une vision sur mon métier, sur ce que je fais, qui est assez...
Qu'est-ce qu'ils pensent de votre...
Bah, ils sont évidemment très fiers et en même temps, ils ont
ils ont peur.
Bien sûr, ils ont peur, et ils veulent savoir, ils s'interrogent. C'est des métiers qui font peur, je pense, quoi qu'il arrive. Donc, surtout l'ancienne génération. Donc, forcément, c'est des discussions qui sont intéressantes, mais j'écoute toujours leurs conseils et c'est toujours très, très fort comme discussion.
Allez, un autre mot. Un sketch, c'est quoi? Vous pourriez répondre d'ailleurs, parce qu'il a commencé aussi par l'humour, hein, moi je le connais bien.
Patrick, c'est pas vraiment des mots, c'est des petites phraselettes, en fait.
Il y a de tout.
C'est vrai que vous nous avez dit que vous alliez faire un mot, une question avec un mot, en fait l'action elle est écrite. Hein.
C'est ça.
Ça dépend, parce qu'il y a des fois je suis flemmard.
Ah, voilà. C'est pour ça.
Mais là, en fin d'année, je commence à fatiguer, donc voilà. Okay. Mais un sketch, c'est quoi? C'est quoi?
Un sketch,
parce que moi, je trouve ça extraordinaire, un sketch. Parce que
Je pense que chacun peut en avoir sa définition. Pour moi, un sketch, c'est...
En fait, c'est du scotch avec une faute d'orthographe.
C'est ça. non, pour moi, un sketch, c'est quelque chose... C'est une manière d'embarquer les gens dans notre monde. C'est-à-dire que je te raconte une histoire, j'ai envie de tout te jouer dans cette histoire. Et moi, c'est ma vie depuis que je suis tout petit. Quand je raconte une histoire à mes amis, je peux pas juste dire, je suis rentré, il y avait ce gars, je suis parti, c'était fini. J'ai besoin de tout décrire. Parfois, on peut trouver des sketchs dans des bouquins, d'ailleurs. Très souvent, quand quelqu'un nous emmène dans son univers, quand il commence à décrire chaque personnage avec les détails, quand il commence à te faire vivre ce qu'il a vécu, bah, dès ce moment-là, pour moi, on est dans un sketch. Voilà.
C'est marrant parce que...
Évidemment, il faut qu'on se marre un peu, mais...
Je peux pas me retenir, mais la définition qu'il donne, c'est vraiment la définition du gars qui est sur le plateau. C'est-à-dire que c'est le gars qui le fabrique, c'est-à-dire qu'il me faut les personnages, etc. Mmh. Et en fait, moi, qui suis celui qui le guide quand il est sur le plateau... Un sketch, pour moi, c'est le regard de quelqu'un sur un événement. C'est-à-dire que un bon sketch, c'est un événement auquel tout le monde peut s'identifier. Un événement, c'est pas ça peut faire une petite histoire, mais une chose de la vie sur lequel quelqu'un a un regard particulier. Et ça, quand c'est bien fait, c'est un bon sketch.
C'est une façon de raconter une histoire.
Exactement.
C'est une façon de raconter
Exactement.
Une histoire. Parce que l'histoire est à peu près la même pour tout le monde, mais il y a la façon de la raconter.
Il a un regard, il a une manière de le raconter, il a une manière de la mettre en scène, ce qu'il dit avec ses personnages, qui fait qu'on la redécouvre, nous, en tant que spectateurs. Et les meilleurs sketchs sont sur les trucs les plus simples.
Alors, Joyce Jonathan a été choisie par Kev Adams. Vous l'aimez beaucoup ?
Oui, je trouve que c'est une super artiste. C'est une jeune fille très douée, très forte, qui mène son petit bout de carrière. Et puis, je la connais bien en plus. C'est une amie, donc...
C'est parti, allez sur MFM Radio dans l'émission de Serge Hazanavicius et Kev Adams.
Samedi Sabatier sur MFM Radio.
Un plaisir de vous avoir tous les deux. Alors, on continue avec un autre
c'est
mot.
Qui tourne.
Vivons heureux, c'est pour les deux. Vivons cachés. Bon, je vais commencer par Kev, comme ça on aura balayé. Ça me semble évident et en même temps, je me dis que ça doit être tellement compliqué.
Ouais, enfin bon, après moi, j'ai pris cette décision récemment de pas me plaindre de rien du tout sur ma vie parce que je suis quand même très très heureux et très bien loti généralement. Mais effectivement, je crois que c'est bien de pas trop s'exposer et c'est bien peut-être pas caché, mais il faut pas non plus vouloir être vu tout le temps. On vit dans une société où tout va tellement trop vite que j'ai l'impression que parfois les gens veulent être...
Vous qui avez pas 30 ans, vous sentez qu'on est dans une société qui va trop vite?
Ça va très très vite, ouais, je le sens.
Alors, attendez, si vous le dites, alors nous on est complètement à côté, quoi.
Ah bah certainement, Patrick.
Non, mais c'est vrai, vous trouvez que ça va trop vite, c'est incroyable.
Ah, je trouve que ça va très très vite, bien sûr. Moi, vous savez, je suis de cette génération qu'on appelle la génération d'entre-deux, c'est-à-dire que j'ai quand même connu les francs, donc je suis pas non plus de la toute nouvelle génération. J'ai quand même connu mes parents quand j'étais petit qui étaient en mode « c'est incroyable les téléphones portables, ça vient d'arriver, t'as vu ça chérie, c'est quand même complètement fou ». Donc j'étais tout petit et en même temps je suis jeune dans la génération qu'on vit actuellement, c'est-à-dire celle du Wi-Fi, du Bluetooth et du AirDrop. Donc à un moment donné, je suis dans un entre-deux qui me permet de voir qu'aujourd'hui tout va très vite. Je sais qu'à l'époque, quand mes parents, ils allaient voir un spectacle de Gad Elmaleh, même s'ils voyaient pas Gad Elmaleh pendant 2 ans à la télé, ils allaient retourner voir un spectacle de Gad Elmaleh puisque c'était comme ça, quoi. Il y avait pas besoin de surexposer l'artiste pour aller le voir tout le temps. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, il y a un nouvel humoriste toutes les 3 secondes. Il y a un marché qui est tout petit. Les gens veulent absolument trouver une place, avoir une place. Et donc, ça crée une urgence. Et cette urgence-là, elle est complètement dingue. Les gens veulent être surexposés. Je vois des mecs qui font des lives sur Internet, sont en direct pendant des jours entiers pour montrer leur vie, leur quotidien. On ne sait plus comment attirer l'attention tant il y a de choses. Donc, ouais, je trouve que ça va très, très vite aujourd'hui. Et je suis pour cet esprit peut-être un peu ancien de dire quand on est sur scène, c'est super. Quand on est à la télé, c'est super. Mais quand on est en famille, à la maison ou même en couple ou peu importe, il faut que ça reste dans le cadre du privé. Sinon, on se perd, je pense.
Bon, moi, je ne peux être que d'accord, Serge.
Moi, oui, 100%. C'est marrant que vous mettiez cette phrase parce que c'était mon deuxième ou troisième film comme acteur. Il y a un metteur en scène qui m'a sorti cette phrase, qui m'était passé complètement à côté. Et en fait, je suis 100% d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être généreux et se livrer d'une manière ou d'une autre. Et quand on fait un geste artistique, on se livre toujours. Mais moi, je crois qu'il faut cacher une partie des choses. Ouais, j'ai une partie de ma vie, à moi, elle est totalement cachée. Et même dans mon parcours... d'acteurs, etc. Je sais que j'ai eu tendance à des moments à dire, oh là là, mais moi, je me cache, comme si quand la sphère privée se mélange avec la sphère publique, comme si on se faisait voler quelque chose, et qu'après on avait du mal à l'exprimer en tant qu'artiste.
Je pense à votre frère qui tourne aussi, et qui fait tourner sa femme.
Ouais.
Ça lui pose pas des problèmes de temps en temps, parce qu'à la fois il expose.
Non, parce que quand vous jouez, je pense, quand vous jouez, moi je me suis toujours senti protégé comme acteur. Quand tu joues, je sais pas, c'est un peu différent dans le cas des humoristes, parce que moi, si je fais un film comme acteur, on va aller voir le film d'eux, on va dire le titre, ou un film avec Serge éventuellement. Mais quand les gens venaient voir le spectacle de Kev, ils venaient pas voir une mise en scène de Serge, ils venaient même pas voir le nom du spectacle. Si vous demandez aux gens le titre des noms des spectacles des humoristes, sympa, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, on va voir Gad, on va voir Kev. Donc eux, les humoristes, et moi je suis admiratif de ça, il y a un truc, c'est je t'aime pas. Moi, on va dire, j'aime ou j'aime pas ton film, ou je t'aime bien ou je t'aime pas dans ce film. Mais voilà. Et je pense qu'on a besoin tous de protéger une partie de nous-mêmes. Quoi.
Vous faites partie de la génération Kev Adams qui n'a pas connu Serge Gainsbourg, vivant.
Malheureusement.
Et moi, j'ai eu la chance, parce qu'il faut bien quand même que les cheveux blancs, ça nous apporte
quelque chose. Moi, je me rappelle.
De l'avoir connu et bien connu. Ouais. Et merci à Serge de l'avoir choisi dans sa programmation.
Samedi Sabatier sur MFM Radio avec Kev Adams et Serge Hazanavicius pour le film Tout là-haut, actuellement au cinéma.
Allez, un autre mot. Tout là-haut, vous y êtes tous les deux. Alors, vous y êtes pour le film, mais dans vos vies, ça va bien ?
Oui, moi dans
Et moi, je me pose la question, quand on est tout là-haut, on va où après ? Parlez-moi de votre avenir. Parlez-moi de ce que vous pensez de vous dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans.
Je vais vous dire ce que je pense parce que c'est quelque chose qui s'est posé avec le film. La différence entre le tout là-haut d'une vie et le tout là-haut d'une montagne, c'est qu'on sait que l'Everest, ça fait 8848, c'est la plus haute. dans notre vie, on ne sait pas quel sera notre tout là-haut. En fait, moi, tout là-haut, dans la vie, et je pense que c'est quelque chose qui est dans le film, tout là-haut, c'est mon prochain rêve. C'est ma prochaine rencontre.
Que vous ne connaissez pas, franchement.
Non, après, à un moment, quand il y a 6 ans, j'appelle Kev et je lui demande « Est-ce que tu veux jouer le meilleur snowboarder du monde ?» et qu'il me dit « Ouais, je ne sais même pas que ça va être un tout là-haut de ma vie. Peut-être que ça va être de l'écriture et que ça va s'arrêter, peut-être ci ou peut-être ça. » Je pense qu'on a tous régulièrement dans notre vie des tout là-haut et qui sont parfois pas forcément très très hauts parce que ça peut être des petites choses de la vie, mais c'est des moments qu'on vit comme des sommets. Il n'y a pas de hiérarchie dans les sommets de la vie, quoi. Il y en a plein tout le temps.
Kev.
Ouais, je suis assez d'accord. J'allais le dire d'une manière différente, mais je suis assez d'accord. J'allais dire que oui, je suis tout là-haut. Je pense que j'ai la chance de faire le métier dont je rêve depuis toujours. J'ai la chance de faire des films, j'ai la chance de faire des spectacles, d'avoir un public. Donc, je suis clairement tout là-haut. Mais en même temps, je pense que c'est un tout là-haut. Je suis tout en haut d'une montagne, mais pourquoi pas aller sur un oiseau et essayer d'aller même dans les étoiles. Voilà, quoi.
Tout est possible.
Ouais, j'y crois profondément.
Mais vous êtes hyper optimiste, hyper confiant en la vie. Je trouve ça formidable.
Bah, comment ne pas l'être? Je rêvais de faire ce métier depuis que j'ai 7 ans et demi.
Quand on j'ai 17 peur, ans et demi. Quand tout va bien, on n'a pas peur de perdre?
Bah, bien sûr que si. Peur, bien sûr que si qu'on a peur. Mais après, ça dépend comment on utilise cette peur. Bien sûr qu'on a peur. Bien sûr que quand tout va bien, on a peur. Bien sûr qu'on a peur.
Quand tout va mal, on a peur que ça continue. Hein. La peur, elle est là quoi qu'il arrive.
Hein. Voilà, c'est ça.
Allez, un autre mot.
Oui, pardon.
Cahier d'histoire géo, ça c'est pour Kev. C'est vrai que vous écriviez les sketchs sur le cahier d'histoire géo?
Tout à fait, ouais, c'est vrai.
Alors on passe à une autre question.
C'est totalement vrai, Patrick, bravo.
Voilà, hop. Soda.
Soda, bah voilà, soda.
Alors, soda, ça. Alors moi je pense que soda et la télé vous a permis d'atteindre tout le monde.
Je pense aussi. Ah. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est dingue puisque la série est encore diffusée aujourd'hui, tous les week-ends. Et ouais, c'est. Il n'y a rien de plus fort que la télévision de toute manière pour chercher. Pour chercher, d'ailleurs, mais plus que chercher, pour trouver son public, il y a rien de plus fort que la télévision. C'est cette petite boîte qui nous permet de rentrer chez les gens, d'être dans leur intimité, de leur parler directement. Donc moi, j'ai adoré faire Soda et c'est toujours avec un immense plaisir que je retombe dessus à la télé et j'adore ça, quoi.
Vous la regardez beaucoup, la télé, tous les deux?
Alors moi, très très peu. Je peux rajouter un petit truc quand même, parce que tout ce qu'il dit est vrai. Mais quand on a commencé le premier spectacle, il faisait pas encore... On ne demande qu'à en rire et pas encore Soda. Et on a commencé en octobre dans une petite salle à Paris. Et donc, moi, j'étais tout le temps avec lui et je suis parti tourner en Angleterre, tu rappelles? Je suis parti tourner un film en Angleterre pendant 5 semaines. Et il n'était pas content, Kev, que je parte. C'est normal, je le laissais tomber. Je suis parti 5 semaines, je suis rentré. C'était à peu près Noël et il faisait ses premiers complets. Donc, la télé est évidemment un accélérateur. Mais ce que lui a réussi en scène... C'était lui, et je peux dire nous d'ailleurs, c'est un travail ensemble, mais c'était lui, parce qu'un autre, mais je pouvais faire le même travail avec d'autres, ça aurait pas... Ce que lui a réussi en scène, ce rapport qu'il a créé en scène avec le public, je pense que c'est quand même, chez Kev, la base de tout. Voilà, c'est faut pas... Il y en a qui construisent sur de la télé... On va pas dire de matin, mais ça, et ça c'est quand même... comme Gad d'ailleurs, Gad c'est pareil, il y a un truc avec la scène.
Un autre mot.
Alors allons-y. J'aime bien tourner.
Voilà. Seul, c'est pour tous les deux. Il vous arrive d'être seul, Kev?
Beaucoup, ouais. Bah, c'est un métier de solitaire, hein, de toute manière. C'est un métier, quand tu montes sur scène, t'es tout seul. Quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel après ton spectacle, t'es tout seul.
Alors, comment on vit ça? Est-ce que la solitude est quelque chose qui vous pèse ou au contraire, ça vous réconforte?
Moi, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis très entouré, j'ai besoin d'être seul. Il y a des moments où je suis très seul, j'ai besoin d'être entouré. Ça dépend des moments, quoi. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de forcément mauvais ou négatif, la solitude. Je crois que parfois, c'est important aussi de l'être pour être créatif, pour se retrouver, quoi.
Alors, seul, c'est le rôle du réalisateur. Parce qu'il est très entouré, mais tout le monde fait, il est seul.
Ouais. C'est marrant parce que je crois qu'à l'âge de Kev, j'aurais répondu exactement la même chose. J'ai commencé à travailler assez tôt. Et aujourd'hui, la vie est mieux organisée. Et donc, quand je suis seul, c'est plutôt les moments où j'ai envie d'être seul. Et quand je suis entouré, c'est plutôt les moments où j'ai envie d'être entouré. Mais le geste artistique... est un geste qui se doit d'être solitaire. Sinon, il n'a pas d'identité humaine propre et il n'y a pas d'intimité. Moi, quand je vais voir un film, je veux que quelqu'un me parle, quoi. Et il y a des réalisateurs que je suis, parce que quand ils parlent, même que ce n'est pas forcément leur meilleur film, ce qu'ils disent à travers leur film me touche. Et voilà, mais oui, on est...
Vous direz ce que vous voudrez, mais l'heure est terminée.
Déjà?
Non. Ouais. Mais ma montre s'était arrêtée alors.
Ouais.
Moi, j'ai rien vu passer.
Mais alors, ça passe très très vite.
Qu'est-ce que vous voulez,
Patrick,
que je vous dise? Que d'une part, moi, j'ai été très heureux. Je vous conseille d'aller voir le film parce que allez-y d'abord. Ne serait-ce que
c'est
pour
dommage, ça, c'était chouette.
Bah, faisons un dernier mot, Patrick.
Mon frère.
Mon frère, c'est beau quand même.
Ouais. Alors, tous les deux, vous avez un frère, toi, un frère, une sœur. Ah, excuse-moi, je le tutoie. Un frère et une sœur.
Ouais. Que tu connais bien, ma sœur,
oui,
j'imagine.
Ouais. Voilà. Et ton frère aussi.
Et mon frère aussi.
Et
rien que de voir écrit mon frère, ça me fait une émotion. Et voilà, c'est la personne qui... c'est une personne que... Kev, je le connais très très bien. Je pense que même je le connais mieux que lui ne me connaît, mais c'est dû à notre relation. Et je le connais, je pense, d'une façon où je suis le seul à le connaître. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui le connaissent sans doute mieux que moi, mais différemment. Mais la personne qui me connaît le mieux, c'est lui, c'est mon frère. Et c'est la personne... voilà, on s'accompagne beaucoup, beaucoup. Et j'ai écrit une phrase pour lui à la fin du film...
Ouais.
On est vraiment très très proche, ouais. C'est quelqu'un que j'aime.
C'est quoi la phrase? Bah, dis-la, maintenant tout le monde veut savoir sur MFM.
Non, bah, il faut lire le générique jusqu'à la fin.
Mais personne lit les génériques, c'est
Mais je me rappelle pas par cœur, je dois lui dire que je l'aime à ma manière.
Oui. Et puis un frère, Kev, qui est DJ.
Exactement, bravo, merci de parler de lui. J'ai mon frère Noam qui est DJ, qui s'appelle DJ Noize.
Ouais.
Et je vous invite à aller écouter ses sons. C'est un tout jeune DJ, il se lance et il le fait avec beaucoup de talent, beaucoup de courage. Et surtout, à chaque fois qu'on lui dit « bah vas-y, on n'a qu'à dire que t'es le frère d'eux », il dit « bah c'est pas grave, je viendrai pas dans votre émission ». Il a envie d'exister par lui-même et je trouve ça très fort et très courageux. Donc voilà, grosse félicitations à DJ Noize. Mais même s'il ne veut pas dire que c'est mon frère, sachez-le, c'est mon frère. Et allez l'écouter, ce serait très gentil de votre part. Et j'ai un autre frère qui s'appelle Liron, qui est la star, qui est mon petit frère, qui est la star de mon second spectacle. J'en parle beaucoup et j'en parlerai, je pense, toujours sur scène, puisqu'il me fait vivre des moments absolument incroyables. C'est le trésor, le petit joyau de notre famille.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que la semaine prochaine, c'est Raphaël Misrahi qui sera là, donc pour le dernier samedi de l'année 2017, il est 13h, et vous écoutez MFM Radio.
Samedi Sabatier sur MFM Radio, avec Kev Adams et Serge Azanavicius, pour le film Tout là-haut, actuellement au cinéma.